bonjour, bonsoir, bienvenue à Voix de fait sur les ondes de CKIA 88.3. Je suis Guillaume, en compagnie de...
Jeannie.
Et Farouk, qui a ouvert son micro aujourd'hui.
Wow, bonjour. fait qu'aujourd'hui, ben, on a quand même un menu assez chargé. Moi, je sais pas, de mon côté, en tout cas, j'ai une thématique anniversaire. Une thématique...
Oh yeah.
Ouais, ouais, c'est en général des 20e anniversaire. Bon, on parle de Polytechnique, on parle de... du mur de Berlin, on parle de cactus. Non, mais c'est parce que, tu sais, je voyais les 20 ans, 20 ans d'anniversaire, puis là, j'étais comme, ah, j'en parlais, tu sais, ça vaut la peine. Mais... Puis peut-être un autre, là, si on a le temps d'en parler, mais celui-là, j'en parle pas. Des fois, tu sais, que ça vous teaserait, puis que...
On n'a pas le temps.
On n'a pas le temps.
Tu ferais traiter d'agace. C'est pas bon, ça.
Sinon, ben, on va aussi parler de pauvreté.
De pauvreté, moi, je parlais de l'augmentation des crimes racistes aux États-Unis, de la ville de Washington qui va payer 13 millions de dollars des manifestants, puis aussi de gouvernement américain qui refuse de signer le traité sur les mines antipersonnelles.
Ça nous fait un menu assez chargé.
Oui, mais les mines antipersonnelles aussi, ça approche l'anniversaire. Il faudrait juste trouver lequel.
Oui, c'est ça. Il faudrait savoir depuis combien de temps qu'ils refusent de signer ça. Mais bon.
Mais nous, on va enchaîner tout de suite avec une pièce méchante. Du hardcore français. Tiens, on reste dans le francophone. Je vous dirai c'est qui après.
Un gigantesque cargo poubelle perdu dans une mer déchaînée. Sous l'effet de la houle commence à céder. Mayday, mayday, à deux doigts de couler. Déjà trop tard, c'est avant qu'il faut s'inquiéter. L'or noir commence à couler à flot. C'est peut-être pas nouveau, mais encore une fois de trop. Et qui fera l'effort de se baisser encore pour ramasser par belle vos putains de poubelles. On ira tout en chez Gordon, car cette terre en vaut bien la peine. Malgré le vent, malgré la tempête, nous balayerons la merde de notre planète. On le fera sûrement pas pour vous, ni pour une médaille, ni pour un sou. Croyez-le ou pas, malgré vos avocats, un beau jour on vous le rendra. L'idée du pollueur payeur est un pic qui nous plaît bien. Mais nous ne sommes pas assez fous pour croire en tout comparateur. À chaque fois c'est pareil, un peu d'émotion télévisée et quelques paroles en l'air devraient suffire à nous calmer. On ira tout dans chez Gordon, car cette terre en vaut bien la peine. Malgré le vent, malgré la tempête, nous balayerons la merde de notre planète. On le fera sûrement pas pour vous, ni pour une médaille, ni pour un sou. Croyez-le ou pas, malgré vos avocats, un beau jour on vous le rendra. Un beau jour on vous le rendra. Un beau jour on vous le rendra. On ira tout dans chez Gordon, car cette terre en vaut bien la peine. Malgré le vent, malgré la tempête, nous balayerons la merde de notre planète. On le fera sûrement pas pour vous, ni pour une médaille, ni pour un sou. Croyez-le ou pas, malgré vos avocats, un beau jour on vous le rendra.
On vient d'entendre Tagada Jones avec Cargo, la pièce que j'ai mis en vidéo sur le blog, notre blog étant...
Oui, notre blog étant voixdefait.blogspot.com.
Ouais, avec excusez. Un X et un S.
Oui, Voix de fait avec un X et un S.
Ouais, faut exactement. Pas les oublier.
Non, sinon on ne trouvera pas.
Ha!
Et... Mais bref, on va commencer le menu de l'émission parce qu'on en a beaucoup, comme on a dit tout à l'heure. Donc, on y va sur la question de la pauvreté.
L'extrême pauvreté des Autochtones, c'est 20 ans après un vote unanime du Parlement d'Ottawa qui promettait d'éradiquer le phénomène de la pauvreté. Des chefs d'Autochtones ont dénoncé lundi, le 23 novembre, la pauvreté extrême dans laquelle vivent de nombreux enfants de leur communauté. Puis ils ont constaté aussi que la pauvreté des enfants pour la nation, puis le nombre de ceux-ci qui sont conviés à l'État, ça a atteint des niveaux critiques. En fait, c'est un enfant des Premières Nations sur quatre qui vit dans la pauvreté. Près de 30 000 se confient à l'État. Donc, un des chefs autochtones par rapport à une crise nationale.
Oui, effectivement, mais en fait, c'est quelque chose qui est une grosse problématique. Mais ça, c'est mon premier anniversaire, parce que si vous avez... Bon, du coup, ça a été un peu le sujet des médias dernièrement, ben, c'est de ces jours-ci, c'est qu'il y a 20 ans que l'État canadien a pris comme engagement d'éradiquer la pauvreté chez les enfants. Donc, en 89, on disait « on va éradiquer ça pour l'an 2000 ». Fait que malheureusement ou
très bien. C'est en 2009, puis c'est pas encore réglé.
C'est peut-être l'an 3000.
L'an 3000, ça doit être ça. Ouais. Ils y remettent au calendrier.
Parce qu'en 20 ans, ils ont réduit ça de 1,4%, je pense.
Ça ressemble à ça, mais tu sais, côté pourcentage, je veux dire, on parle en général de, comme c'est ça, 11,9% à 9,5% en 20 ans. Là.
Ouais.
Puis chez les Autochtones, ben, comme Janie disait, c'est encore beaucoup plus élevé. Ben, en fait, c'est sont à 15%. Puis, sauf que ce qui est marquant aussi, c'est que dans le fond, pendant ces années-là, on parle au Canada d'une croissance économique record, genre, surtout depuis 2000, là, ou en fait 98, on parle d'une croissance économique qui j'avais jamais été atteinte, j'ai pas les pourcentages, sauf que la croissance comme telle, ben, elle a profité toujours aux mêmes. Genre, elle a toujours profité aux classes les plus aisées. On parle de comme pour chaque dollar en 2007 qui possédait une famille parmi les 10% les plus pauvres, ben, une famille parmi les 10% les plus riches en possédait 12 fois plus, 11,87 à peu près. Puis ça, c'est juste une moyenne. Là, fait qu'on se doute bien qu'au top de l'échelle, c'est là que
il y a la famille Martin.
Oui, famille Martin.
Elle est assez en haut. Hein.
Ouais, mais ou sinon la liberté et consorts, là, mais donc c'est ça, du côté de la pauvreté des enfants, c'est peu reluisant. Puis ben c'est ça, on n'est pas prêt de voir non plus des développements de ce côté-là vraiment. Ben entre autres, on en a parlé la semaine dernière là avec Nicolas, qu'il y avait des extraits de manifestations par rapport aux consultations qui sont faites par le ministre Amad par rapport justement à la stratégie de lutte à la pauvreté au Québec. Ben c'est ça, il y avait une manifestation dans le fond dans Chaudière-Appalaches, il y en avait une autre à Québec pour ces consultations là puis ça continue en fait là, il y en a eu à Montréal cette semaine. On parle justement d'un plan qui a beaucoup de lacunes, qui a beaucoup de, tu sais, qui fait place entre autres au privé avec la fondation Chagnon qui s'insinue un peu partout dans les...
On retombe dans la charité privée.
Ouais, c'est ça, on arrive à ça avec cette fondation là qui est toute puissance et qui impose ses propres stratégies. Puis ben c'est ça, on évite d'écouter vraiment ce que les gens ont à dire. Puis en fait, on fait semblant d'écouter, mais on a déjà nos conclusions de fait au niveau du gouvernement. En tout cas, c'est ce qui semble, puis c'est ce qui risque de sortir de là, d'après ce que les gens du communautaire et les gens qui luttent à la pauvreté au quotidien critiquent. Pardon. Critiquent actuellement. Sauf que, bon, ben justement, là, je vais le plugger tout de suite parce que ça fait un peu où on est.
En fait, t'es capable.
C'est que le 11 décembre prochain à Québec, on parle d'une mobilisation, une manifestation du monde communautaire, dans le fond, en marge, encore une fois, de la consultation du ministre Amad sur le deuxième plan de lutte à la pauvreté. Il y a plus de détails à venir. Bien sûr, on va vous en reparler ici à voix de fait, probablement dans les deux prochaines semaines encore. Mais dans le fond, cette manifestation, ben c'est ça, va avoir lieu. Puis ensuite, il y a aussi le souper du monde communautaire, dans le fond, de souper de la solidarité au Centre Horizon, genre au 801 4e rue à Limoilou, dans le fond, au profit des groupes associés pour le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec. Donc, ben ça aussi, on va vous en reparler au courant des prochaines semaines, mais c'est quand même à noter que ça va avoir lieu le 11 décembre. Désolé, j'ai frappé mon micro. Ensuite, c'est ça, par rapport à la pauvreté, par rapport au problème de l'itinérance, en fait, qui est comme, on s'entend, assez directement lié à la pauvreté. Il y a, en fait, on voyait hier, il y avait une nouvelle qui disait dans le Devoir qu'il y a une vaste recherche pour briser le cycle de l'itinérance qui est lancée. En fait, que Ottawa qui investit 110 millions dans les 5 grandes villes canadiennes, dont Montréal. Dans le fond, pour toucher à peu près 3000 sans-abri, pour essayer de faire... en fait, on leur fournit un logement, puis on fait une étude par rapport à comment ils se comportent à travers ça, comment ça va être quoi leur comportement par rapport à la consommation d'alcool, de drogue, etc. Et surtout par rapport à la santé mentale, en fait, parce que les gens qu'on va cibler, ça va être des gens qui souffrent de maladies mentales, parce qu'on dit que c'est une grande part des gens qui sont à la rue actuellement. Bon, cette stratégie-là est effectivement saluée par les groupes de lutte à la pauvreté. Bien sûr, on n'a pas encore d'idée, dans le fond, de si ça va avoir des résultats concrets, puis si après ça, on va avoir une suite pertinente à ça. Parce que, à 110 millions pour la recherche, on sait pas non plus est-ce que le gouvernement va vraiment débloquer l'argent qui va suivre pour aller vers les autres personnes qui sont dans ces problématiques-là. Puis si, dans le fond, on va régler le problème de la désinstitutionnalisation du monde psychiatrique qui a eu lieu il y a déjà plusieurs années au Québec. Donc, c'est à voir. C'est dans le fond, on va sûrement essayer d'en reparler pour voir si des résultats sont probants là-dessus. Je pense que les résultats, ils veulent que ça vienne d'ici 3 ans ou quelque chose comme ça. En fait, les premiers constats qu'ils vont faire, là, avec les gens qui vont avoir été aidés dans cette mesure-là. Ensuite, dans le domaine là de la pauvreté, c'est encore une fois directement lié. On passe de l'itinérance au logement, on se dit que il y a une crise du logement depuis des années à Québec, depuis des années.
Officiellement, il n'y en a plus.
C'est ce qu'on semble voir là, parce que là c'est une grande nouvelle dans le Soleil cette semaine que le marché résidentiel est plus vigoureux à Québec qu'à Montréal. Ouh, on peut se targuer d'être plus fort.
Ouais, le monde, ils sont habitués à la misère puis ils s'empilent dans les apparts.
Oui, c'est ça. Mais sauf que je pense que la bonne nouvelle, c'est pour les gens qui y construisent, tu sais, parce que c'est quand même dans le cahier à faire, donc on se dit que peut-être c'est pour ça que, dans le fond, c'est une bonne nouvelle que ce soit à 0,6% de taux d'inoccupation. Puis le prix moyen, attendez, c'est vraiment aberrant. Là, je l'ai pas sur mon article ici, mais ça tournait entre 580 et comme 1 000 $, dépendant de la grandeur du logement, là, le prix moyen mensuel d'un loyer. Puis, mais c'est ça, dans le fond...
Ça a augmenté un rythme fou. C'est Nicolas qui parlait autrefois d'environ 30% dans même pas les 4-5 dernières années. Il n'y a pas un salaire qui suit ça. À part peut-être dans les hautes sphères de l'échelle sociale.
Non, c'est ça. Ça a aucun bon sens. Puis là, je veux dire, c'est... Ah, ok, je l'ai ici, c'est ça. Le taux d'inoccupation est à 0,6%, puis les loyers situant entre 861 et 587 selon le secteur de la ville. Puis ça, ça passe comme une bonne nouvelle. Puis dans le fond, là, on parle en plus que avec le redressement économique, apparemment Québec avait pas été touché par la crise, mais on se redresse. Fait que, en tout cas, allons-y fort. Mais ce qui veut dire que le marché immobilier, il devrait encore donner des signes de redressement. Donc, on pense encore à un taux d'inoccupation qui risque de rester le même et à genre des loyers qui vont continuer à augmenter.
Mais cet été, connaître un peu le milieu de la construction, il y a pas eu crise, il n'y a même pas eu diminution. Tout ce qu'il y a eu par rapport aux autres années d'avant, c'est que il n'y a pas eu le boom espéré. Il y a beaucoup de projets présentement, pas forcément dans le résidentiel, mais à Sainte-Foy, il y a un paquet de tours qui est en train de se construire que cet été, ils n'ont pas avancé une seconde.
Okay.
Parce que ça, c'est des gros projets avec des gros développements. Tu sais, ça prend beaucoup de crédit, en fait. Et les entrepreneurs, ils ont mis la pédale douce.
Des projets résidentiels?
Ou... Non, eux, c'est commercial. Mais dans le résidentiel, il n'y a pas eu aucun fléchissement parce que ce qui est le problème actuellement à Québec, le 0,6%, ça nous touche, nous, à vous, nous, dans le social, dans le communautaire, parce que À 0,6% à chaque juillet, c'est la crise. Tu te ramasses du monde dans la rue. Mais ça touche les business. C'est eux que ça les touche aussi. Puis c'est pour ça qu'on en entend parler. Parce que il y a des parcs industriels et technologiques à Québec qui se développent plus parce qu'ils n'ont pas de condos puis ils n'ont pas d'appartements pour loger leurs scientifiques, pour loger leurs travailleurs qualifiés. Fait qu'on se ramasse, c'est pour ça qu'on entend encore parler. S'il n'y avait pas actuellement à Québec espèce de boom techno puis industriel, genre, ben on n'entendrait même pas parler. Ça serait, il n'y a pas de crise, il n'y a pas rien, puis ce serait même pas une bonne nouvelle. Ce serait juste comme ça, tu sais. La situation reste comme elle était.
Mais de toute façon, il y a aussi le fait que, c'est ça justement, tu disais, il n'y a plus de condos pour loger ces gens-là. Et on ne construit pas d'appartements, là, on ne parle pas d'une construction d'appartements éventuels.
Les condos, il y a une explosion incroyable. Il y a des projets là, sur Chauveau, au nord de la ville, des affaires de quand ils parlent de 1300 unités de logement. Là-dessus, là, quand tu fais une analyse rapide, juste à faire un exemple, on va faire un micro-exemple avec un condo qui s'est bâti dans Saint-Sauveur, un petit bloc. Le propriétaire, il a fait bâtir et met en location pour 10 ans. Fait que ça rentre dans... c'est du locatif privé neuf. Non, c'est pas du locatif privé neuf. C'est un propriétaire qui a fait bâtir du locatif privé neuf pour avoir ses subventions liées au locatif privé neuf. C'est-à-dire à peu près 20 000 balles du futur condo parce que c'est loué 10 ans.
Puis 10 ans, il s'évite lui-même ses problèmes de réparation éventuelle parce que c'est flambant neuf, mais après ça...
En 10 ans, on vend. Le terrain va avoir pris... l'espace en tant que tel, en pleine ville, va avoir pris de la valeur. Le quartier, avec un peu de chance, va s'être revivifié. Et on vend encore mieux. Fait qu'on paye des deux côtés. Tu sais, il n'y a pas aucune garantie que les beaux petits locatifs privés neufs restent locatifs plus que 10 ans. Il n'y a aucune garantie, là.
Bon, mais en tout cas, c'est certain qu'on va suivre ça ici à Voix de Fait attentivement, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. Puis, c'est ça, on va aussi être présent, puis on espère avoir des extraits aussi pour la manifestation au 11 décembre. Fait qu'on va vous revenir là-dessus.
On va mettre notre équipe de journalistes chevronnés
sur le terrain.
Ça nous prendrait une pub pour mettre sur notre blog à la V.
Je pense que François serait capable de nous faire quelque chose dans ce domaine-là. Faudrait en parler.
Ouais, on devrait enchaîner. Est-ce que t'as d'autres pubs?
Non, on va y aller en musique. Là.
On va y aller en musique. On va y aller avec un cover fait par The Redskins avec la pièce 16 Tons sur les ondes de Voix de Fait 88.3 FM.
Muscle and blood and skin and bone. Mind that's weak and back that's strong. You know, 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I might go to the company store. Born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 gold. The star boss said, well, bless my soul, you know. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. To the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting trouble is my middle name. I was raised in a game written by an old mama line. No high tone woman's gonna cry my style. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I own my soul to the company store, yeah. Oh, yeah. I own my soul, yeah, no. Oh, my soul, oh, my soul.
You load 16 tons. You load 16 tons. Well, what do you get? Nothing. Ooh. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't. A lot of men died. I got one fist of iron, another of steel. In the right one knows me, in the left one will. Just one thing I will ask of you. Do they on your asses? They surely do. You load 16 tons. What do you get? Never the older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I am a toe to the company store.
Alors, qu'est-ce qu'on écoutait?
Si t'avais écouté ce qu'il y avait avant les
ah, excuse-moi.
C'est The Redskins, un band de soul trotskiste qui nous chantait la pièce 16 Tons, une vieille chanson de lutte ouvrière. Et j'ai perdu l'original, je sais pas d'où ça vient.
Bon, ben merci quand même de nous l'avoir répété.
Fais-moi bon. Plus répéter.
Non, je vais essayer. Donc notre prochain sujet en fait ben, c'est un autre anniversaire, mais celui-là est quand même bon ben, beaucoup plus triste. On en parle à toutes les années, mais cette année ça fait 20 ans qu'il y a eu la tuerie à l'École Polytechnique de Montréal, où 14 jeunes femmes avaient été assassinées le 6 décembre 89 parce qu'elles étaient des femmes, en fait par un homme qui cherchait à viser des femmes en particulier. Sauf que ben, pourquoi on en parle aujourd'hui? Vous allez me dire, on est le 25 novembre. Là, on n'est peut-être pas le 25 novembre demain, parce que si vous écoutez en rediffusion, on est le 26. Mais bon, c'est que le 25 novembre, le mercredi 25 novembre, c'est le début d'une campagne qui s'appelle 12 jours contre la violence faite aux femmes. C'est lancé par la Fédération des femmes du Québec en collaboration avec une panoplie assez large de groupes féministes et pro-féministes. Ces 12 jours d'action-là, en fait, c'est une campagne québécoise de sensibilisation et d'action qui est coordonnée par comité, comme je disais que c'est ça.
Formé de groupes féministes.
Féministes. Excusez. Parce que je disais mon papier puis ça fitait plus. Mais c'est ça. Ben, en fait, le 25 novembre, c'est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Puis c'est ça, le 6 décembre, ben, c'est la journée de commémoration des actions contre la violence faite aux femmes au Québec à cause justement de la tuerie de Polytechnique. Ben, c'est ça pourquoi le 25 novembre, ben, ça a été proclamé en 1999 par l'ONU pour rappeler que cette violence faite aux femmes est un obstacle sur la voie de l'égalité, du développement et de la paix. Elle invite les gouvernements, les institutions, les organisations internationales et donc gouvernementales à organiser des activités conçues pour sensibiliser l'opinion au problème de la violence envers les femmes. C'est ça, le comité de coordination des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes est formé de plusieurs groupes qui organisent un paquet d'activités. Donc, à Québec, j'ai ici les quelques activités qu'il y aura. Du 23 novembre au 3 décembre, en fait, c'est le Centre de ressources pour femmes de Beauport, sur 3365 Chemin Royal, qui fait l'activité, en fait, unie pour que cessent toutes les violences faites aux femmes. Mais en fait, ce qu'ils font surtout, c'est une invitation à venir chercher le ruban blanc, le petit ruban blanc comme les
de commémoration.
De commémoration, c'est ça.
Comme toutes les causes ont leur ruban avec leur couleur.
Ouais,
exactement. Pourrait changer un peu, je pense.
Mais je sais pas si je me trompe, mais c'était pas celui-là qui était le premier ruban de la gang.
Pauvre si c'est eux, ça.
Ouais, en tout cas. Mais bref, c'est ça. Donc, on parle du ruban blanc pour le support à cette cause-là. Donc, il va y avoir aussi des visites de trois groupes de femmes sur le territoire de Beauport. Donc, j'ai lundi le 20 novembre, mardi 1er et mercredi le 2 décembre. En tout cas, ben, bref, vous pouvez vous informer auprès de ce groupe-là, du Centre de ressources pour femmes de Beauport, pour plus d'informations. Puis ça, tout, dans le fond, à la base, vous pouvez aller sur le site www.ffq.qc.ca. Sur ce site-là, dans le fond, vous allez avoir les liens pertinents pour, tout, là, toutes les informations, tous les textes pertinents sur la cause, justement, de la violence faite aux femmes et les calendriers des activités. Pour poursuivre sur les autres activités, ben, en fait, il y en avait une mercredi le 25 novembre, donc ben, c'est passé, j'en parlerai pas. Sinon, ben, vendredi le 27 novembre, il va avoir une journée de sensibilisation sur la violence envers les femmes qui va être organisée au Parlement. En fait, ça va être il va y avoir plusieurs bénévoles qui vont se promener autour et tout pour distribuer encore une fois le petit ruban blanc et distribuer de l'information et sensibiliser les gens à la cause. Donc, ben, si
au Parlement, quel adéquiste notoire cette année va refuser de commémorer le 6 décembre?
On ne sait trop, mais
on fait un pool.
Deltel.
Maudit.
Ou Gilles Taillon, mais il, ah non, il est plus là, excusez.
Bon. On le remercie encore.
On le remercie encore.
Bon job, Gilles.
Donc, ben, c'est ça. Si ça vous tente d'aller les encourager, donner un coup de main et tout, ben, c'est encore une fois le 27 novembre. Pour plus d'informations, dans le fond, vous pouvez contacter la FEAS pour qui est au. Voyons, excusez-moi, au www.afeas.qc.ca. Vous allez avoir toutes les informations par rapport à cette journée-là. Ensuite, il y avait une autre chose qui me semblait pertinente. En fait, s'il y a des étudiantes et des étudiants qui nous écoutent, il y a un colloque qui va se tenir à l'UQAM du 4 au 6 décembre. Par rapport à la tuerie de l'école polytechnique, mais par rapport aux violences masculines contre les femmes et les féministes. Donc, sûrement une occasion justement de discuter. Discuter féminisme et discuter aussi par rapport au masculinisme qui est un mouvement qui malheureusement se fait de plus en plus présent au Québec et qui nous...
qui est des belles petites pointes de violence et d'intimidation.
Exactement, dans le fond, qui se plaignent eux autres même d'être victimes de violence, mais qui ne cessent de nous en mettre en pleine face et en mettre aux femmes aussi... jour après jour. Donc, c'est ça. Si ça vous intéresse, j'ai-tu un lien? En fait, c'est l'IREF, l'Institut de recherche en études féministes de l'UQAM qui organise ça. Donc, vous pouvez vous rendre à leur site Internet dont je n'ai pas l'adresse avec moi.
Au pire, ça doit sûrement être affiché sur le Babillard, la page d'ouverture de l'UQAM, sûrement.
Oui, sûrement aussi. Puis, je pense aussi que ça allait sur le site de la FFQ. Donc, vous allez pouvoir trouver ça. Puis, pour terminer un peu ce bloc-là sur justement la violence faite aux femmes, les 20 ans de Polytechnique et tout, il y a une déclaration, dans le fond, qui a été signée par toute une panoplie de groupes. Puis, je trouve intéressant, dans le fond, de vous la lire, dans le fond, pour qu'on se rendre compte un peu de la cause et tout. Donc, ça va comme suit. Donc, aujourd'hui, le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, s'amorce une campagne de sensibilisation et d'action afin que cesse la violence à l'endroit des femmes. Nous joignons notre voix au porte-parole pour demander à toutes et à tous de contribuer à mettre fin à cette violence. Il y a 20 ans, le 6 décembre 89, 14 jeunes femmes ont été assassinées par un homme qui en voulait aux femmes et à leur avancée dans la société. Depuis, les féministes sont couramment pointées du doigt pour avoir osé faire un lien entre cet acte meurtrier et les multiples violences exercées à l'endroit des femmes. Or, nous sentons encore l'urgence de transformer les normes sexistes et patriarcales qui les perpétuent. Nous affirmons que la violence sexiste existe toujours ici au Québec, comme partout dans le monde. Nous nous portons à la défense de nos mères, de nos sœurs, de nos filles qui subissent de la violence dans leur couple. Nous sommes bouleversés qu'autant de nos amies amoureuses doivent se débattre contre des agressions sexuelles. Nous marchons aux côtés de celles qui fuient des régimes politiques qui tolèrent la violence envers les femmes. Nous sommes scandalisés que certains profitent de la précarité des emplois occupés par des femmes immigrantes pour les exploiter. Nous sommes blessés par le fait que ce sont des proches, donc des personnes de confiance, qui commettent la plupart des agressions à l'endroit des filles et des femmes. Nous dénonçons les actes de violence perpétrés par les soignants envers des femmes handicapées ou aînées. Nous ne tolérons plus le harcèlement sexuel au travail. Nous refusons l'indifférence face à la disparition de femmes autochtones. Nous solidarisons pour que cesse la publicité sexiste et la sexualisation de l'environnement. Nous dénonçons les agressions impunis vécus par les femmes dans l'industrie du sexe. Les violences répétées portées contre les unes maintiennent toutes les femmes dans un état de peur. Elles portent atteinte à leur dignité, leur liberté et leur droit à l'égalité. En adoptant une vision égalitaire dans nos relations, en prenant toutes les formes de violence au sérieux, en refusant de les banaliser et en les dénonçant, nous pouvons mettre fin à la violence envers les femmes. Nous prenons la parole pour reconnaître la pertinence du mouvement féministe. Il est incontournable. C'est un mouvement d'espoir et de solidarité. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus égalitaire. Alors voilà. Et donc c'est la déclaration en question. Puis, pour conclure, c'est ça, conclure toutes ces 12 journées d'action-là, il y a un grand rassemblement qui va avoir lieu à Montréal, au parc Émilie-Gamelin, à côté de l'UQAM, dans le fond, pour, c'est ça, commémorer les 20 ans de Polytechnique. Donc, on va y aller en musique.
Oui, messieurs. On va y aller avec un band français, Feu Yabasta, avec une vieille pièce intitulée « Mauvais consommateur ». J'avais pas de pièce francophone qui fitait avec le bloc. J'avais pas ça sous la main, désolé. On va enchaîner.
Domine exodi, orationem meam. Dominus vobiscum, et spiritus sanctus. Amen.
Vous écoutez, Voix de Fer.
Voilà. Ah, c'était bon, hein?
Ah oh oui, mais c'était court!
Tu joues pas au tiercé, tu ne joues pas au loto. Les seuls règles que tu as sont tatoués sur ta peau. Tu vas en vacances sur la Côte d'Azur. Tu voyages en tête pour oublier tes blessures. Tu n'as pas épargné pour avoir un logement. Tu squattes un peu partout dehors le plus souvent. Tu n'as pas emprunté pour un bon Hugo. Plus qu'un garçon pollué, on peut tout dire écolo. Tu ne bois pas d'alcool, tu ne fumes pas le tabac. La drogue que tu prends n'est pas taxée par l'État, non. Tu vas pas au McDo, on graisse les bouquins. Il manque plus, tu deviens végétarien. Tu ne remplis pas de bouffe, ton chalut chez Carrefour. T'as pas la carte d'accord, tu n'as que la carte de séjour. Tes frères sont pas tendance, t'es plutôt démodé. C'est pas un anneau qu'on cul pourra te donner. Mauvais consommateur.
Alors, c'était Yabasta sur les ondes de CKIA FM. Vous écoutez toujours l'émission Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Donc, on y va avec un bloc international.
International états-unien. C'est ça, c'est... ben, figurez-vous donc que le dernier récipiendaire du prix Nobel de la paix, Barack Obama, il refuse de signer le traité d'Ottawa qui interdisait les mines antipersonnelles.
OK, un traité, c'est ça que les États-Unis refusent depuis, ben, depuis la création de ce traité.
Ouais, ben, dans l'article que j'ai posé sur la presse aujourd'hui, mercredi, ben, j'ai fouillé, là, puis ils le disent pas.
Je pense parce qu'il avait peur pour sa survie.
Oui, c'est ça. Pour moi, il avait peur d'en rencontrer une.
Il y a des lobbies qu'il faut pas que tu niaises trop avec.
Non, effectivement, c'est ça.
Ça, c'est. Il est supposé avoir une conférence de révision du traité d'Ottawa qui doit se tenir du 30 novembre au 4 décembre en Colombie. Puis les États-Unis ont décidé qu'ils enverraient une délégation d'observateurs, puis ils ont dit qu'ils sont des leaders mondiaux en matière d'action humanitaire relative aux mines, puis qu'ils ont dit qu'ils ont envoyé de l'argent, puis qu'ils ont réussi à... Ils disent qu'ils ont contribué à réduire significativement le nombre de victimes de mines. Pourtant, selon l'Organisation non gouvernementale Handicap International, le traité d'Ottawa a permis la réduction de 42 millions de mines antipersonnelles stockées par les 156 autres parties, le déminage de plus de 1000 km². Tandis que les États-Unis, ils parlent pas, d'après moi, ça n'a pas l'air d'être très significatif comme impact, là. Puis, quand même paradoxal. Tu sais, ils donnent le prix de la balle de la paix, puis ils s'en foutent qu'il y a du monde, des gens qui se retrouvent métisés à cause des piles des mines.
Puis, je pense qu'un de leurs arguments aussi, c'est que ça nuirait à leur propre défense.
Bon, ouais.
Oui, c'est ça. Avec la plus grosse armée du monde. Et,
en même temps, ils ont le mérite de ne pas être hypocrites, parce que, à moins que je me trompe, là, il y a des pays qui l'ont signé, puis qui fabriquent des pièces, certaines pièces.
OK.
Puis, ship ça. Tu sais, ils continuent quand même à être dans le commerce, mais ils fabriquent pas de mines. Tu sais.
Ouais.
Puis, leurs forces armées, pas eux directement, mais dans des coalitions, il y a des mines. Tu sais, t'es comme.
Mm-hmm.
Ouais, c'est beau ces traités-là, c'est magique.
Marc, le Canada peut bien avoir été à l'origine de ce traité-là, mais on est en guerre en Afghanistan aux côtés des États-Unis.
Oh.
Deuxième nouvelle, c'est la ville de Washington qui s'est signé un accord à l'amiable pour payer 37,7 millions de dollars à plusieurs centaines de manifestants qui poursuivaient la municipalité dans le cadre d'une plainte collective ou arrestation abusive lors de manifestations. Au cours des assemblées générales du FMI de la Banque mondiale en 2000, c'était peu après les événements des manifestations contre l'OMC à Seattle. C'est quelques 680 manifestants, parmi lesquels des touristes et des journalistes. Ils avaient été arrêtés, c'est ça, en avril 2000. Ils n'avaient enfreint aucune loi, en fait. Ils avaient été détenus, menottés dans un bus pendant plus de 12 heures, sans nourriture, sans eau, sans accès aux toilettes. Puis les manifestants n'avaient aucune accusation, en plus. Donc, tout de suite, à cet accord-là, chaque manifestant inscrit dans le plein collectif pourrait recevoir jusqu'à 18 000 $ de cette somme de 13,7 milliards versés par la ville.
Wow. Et ils sont plus... droits de la personne friendly à Washington qu'à Montréal.
Oui, mais je pense que dans leur dans le règlement, ils parlent justement qu'il y avait des touristes puis des journalistes, donc peut-être des gens qui avaient plus
Montréal
de moyens.
À Montréal aussi, ça arrive souvent.
Ouais.
Mais beaux encerclements, là, vois fréquemment dans les médias quand ça sort, des gens avec des petits messieurs avec leur marchette ou leur canne qui se font poivrer puis embarquer, t'es comme...
Ouais.
Ça, c'est pas le portrait type du manifestant moyen, il me semble.
Ben, quand tu vois rouge, parce que comme t'as ton habit d'anti-émeute sur le dos, je pense que oui, finalement. C'est peut-être
n'importe quoi qui bouge.
Non, c'est ça, un chien, un oiseau.
Un oiseau.
En tout cas, puis dernière nouvelle, il y a les crimes racistes qui ont augmenté aux États-Unis. Ça, l'élection du président Barack Obama n'a pas dû aider. Ça, c'est le nombre de délits qui sont liés à l'origine ethnique, la religion, la religion sexuelle. Il a augmenté de 9500 en 2007 à 9700 en 2008. Puis le racisme, ben, ça reste la motivation principale. C'est un rapport qui a été publié par le FBI, par la police fédérale. Parmi les infractions commises contre ces personnes, il y a 7 meurtres et 11 viols ont été, selon la FBI, directement motivés par les discriminations en 2008. Près de la moitié des autres infractions relevaient de l'intimidation, 30% d'agressions simples, 18,7% d'agressions graves. Puis, en fait, c'est les Hispaniques qui représentent environ 15% de la population des États-Unis qui sont les plus touchés par les discriminations reliées à l'origine ethnique. Puis, il y a aussi 17% des délits qui ont été perpétrés en raison de discrimination à l'orientation sexuelle. dans 87% des cas parce que les victimes étaient homosexuelles, hommes et femmes. Mais en fait, c'est dernièrement que la discrimination liée à l'homosexualité, ça a été comme mis illégal aux États-Unis, là, dans 2009, puis ils viennent de mettre ça illégal.
Ouais, mais c'est assez... C'est louche, parce qu'aux États-Unis, t'as le droit... Il existe officiellement le National Socialist Movement, qui est comme un parti institutionnel protégé par la Constitution américaine, leurs amendements de free speech, tout ça. Mm-hmm. Fait que tu peux te promener en pleine rue avec une svastika, l'habit, tant que tu veux, c'est protégé. Ils considèrent pas ça comme une agression. C'est aussitôt que ça passe au physique. Mais, je veux dire... Bordel, moi je verrais ça dans la rue, je serais intimidé. T'es pas assez peur à leur goût, tu sais que leur projet c'est éliminé. Mm-hmm. Puis ensuite, ils parlaient que le groupe le plus ciblé actuellement c'était les hispano-américains.
C'est le groupe aussi qui est
le plus fraîchement rentré, ouais, entre guillemets.
Puis le plus rapidement aussi, qui augmente le plus rapidement.
Oui, mais le problème, ce qu'on observe dans le phénomène des Minutemen, ceux qui, mm-hmm. l'espèce de bénévoles de la frontière armée, t'as des Blancs et des Noirs qui essaient de bloquer les Latino-Américains.
Okay.
Parce que, puis là, le monde s'attend, des Minutemen, c'est raciste, c'est réactionnaire. C'est plus compliqué que ça. Là, on tombe dans une autre étape de la xénophobie. Là, les Noirs et les Blancs ont un sentiment d'appartenance aux États-Unis. Mm-hmm. Et pour eux, le alien, parce qu'ils parlent d'alien, d'extraterrestre, ouais. Ben c'est l'hispanophone qui arrive du sud de la frontière. Fait qu'on revit le même ressac qu'il y a eu contre les Noirs quand ils se sont émancipés de l'esclavagisation et toute l'équipe. Mais on le revit, mais le groupe oppresseur, pas au complet, je dis pas que c'est 100%, mais dans le groupe oppresseur, on retrouve ceux qui avaient subi avant. Il y a comme pas de prise de conscience qui s'est faite dans ces Minutemen noirs-là. Mm-hmm. C'est vraiment... Tu regardes les vidéos là, que tu peux trouver partout, puis ils sont hallucinants. C'est vraiment... Tu sais, t'as des gars d'extrême droite avec des gros Minutemen noirs qui essayent de revirer de bord les Mexicains. C'est vraiment... On s'en va vers dans de très complexe. C'est touché.
Bon, ben en tout cas, ça va être quelque chose à suivre encore une fois. Moi, je vous avais annoncé une thématique anniversaire, là, encore.
Oh, un autre anniversaire.
Un autre anniversaire.
Lequel?
Ben là, ça fait quand même quelques semaines qu'on en entend parler, là, mais c'est la chute du mur de Berlin.
Oh!
Ouais. Ben, vous allez vous dire, mais là, pourquoi qu'il nous parle de la chute du mur de Berlin, là, justement, ouais, on entend parler de partout.
Tanné.
Ouais, c'est ça.
Il est tombé, là.
En fait, je vous en parle, c'est parce que je suis tombé c'est quatre articles, là, mais c'est dans le Monde libertaire de la semaine dernière, parce que, bon, on le reçoit une semaine en retard, vu que c'est un magazine français, mais... c'est ça, c'est comme quatre articles qui sont faits qui nous expliquent un peu, d'un point de vue anarchiste, en fait, qu'est-ce que ça a signifié la chute du mur, qu'est-ce que ça a signifié premièrement le clash entre les deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, et le début de la guerre froide, avant la guerre froide aussi, parce qu'on parle que, entre autres, justement, qu'en URSS de 1921 à 1937, il y a eu une répression systématique de tout mouvement anarchiste qui aurait pu avoir lieu. En fait, ce que l'auteur nous dit, c'est que à Moscou comme tel et à Saint-Pétersbourg, il y avait qui s'appelait pas Saint-Pétersbourg à l'époque, là, mais Leningrad, dans le fond, qu'il y avait une certaine liberté qui était laissée à des groupes anarchistes puis à certaines publications, mais que c'était vraiment juste pour le cover, pour montrer, tu sais, à l'extérieur que on est gentil, on laisse une certaine liberté et tout, mais tout de suite quand tu sortais des grandes villes, de ces deux grandes villes là en fait, tout était répression du côté anarchiste. Donc c'est ça, c'est puis il nous explique aussi en fait dans un autre article comment il y a eu Mais qu'est-ce que ça signifie, en fait, la transition vraiment, tu sais, stalinienne pure et dure après la Deuxième Guerre mondiale, où là, il y avait vraiment une militarisation de plus en plus grande? Il nous explique aussi un peu, d'après les écrits de Cornelius Castoriadis, qui dans le fond, qui lui, était pas un anarchiste à la base, mais sauf que c'est un auteur qui avait écrit... à l'époque, dans le fond, qui lui observait la bureaucratie devenir de plus en plus puissante, la dictature s'installer, qui observait un peu aussi et aussi surtout le rôle de l'armée à travers tout ça. Puis en fait, ses analyses à lui ont été beaucoup reprises dans la pensée anarchiste, par les anarchistes, par les libertaires à l'extérieur, même si lui-même ne s'identifiait pas. En fait, lui, sa thèse, en gros, ce serait que c'est devenu vraiment un régime militaire, parce que les militaires vivaient sur un régime vraiment différent, matériel, là, on pourrait dire. C'était une classe vraiment privilégiée. D'une part, on est toujours dans la tête là, les Lada, qui sont des véhicules vraiment cheap, qui brisent facilement, qui sont très basiques. Sauf que ça, c'était pour la population, c'était pour les civils en général, sauf que l'armée, elle, avait du matériel qui pouvait concurrencer les États-Unis, là, tu sais, côté militaire, là, puis
pas loin, mais il était pas... il était toujours une coche en retard.
Il était peut-être une coche en retard, mais le niveau qualité, niveau fiabilité...
Il était au-dessus de la population.
C'est ça, il était au-dessus de la population à l'intérieur. Puis au fond, le régime bureaucratique était à la disposition du complexe militaro-industriel et comme le défi technologique par rapport à entre autres à la courtasse et etc. Donc ça aussi, c'est un aspect qui est très intéressant. Puis sinon, il y a aussi une entrevue avec Nicolas Trifon, qui était un membre de la rédaction de la revue Istoc, qui dans le fond, que ça veut dire Est, à l'Est, qui était publié dans le fond dans les années 80 jusqu'à un dernier numéro là, après la chute du mur. Puis lui, dans le fond, explique un peu comment dans le fond, ça n'a pas changé grand-chose du côté des mouvements anarchistes, de comme voir la chute du mur, que à l'Est, ça a enlevé une certaine dictature, mais en même temps, il y a eu quand même un backlash, puis il y a eu quand même, une occidentalisation des valeurs et tout. Donc, ça n'a pas été un mouvement, dans le fond, de retour à un autre type de mouvement qui aurait été vraiment révolutionnaire ou qui aurait voulu vraiment changer la société et donner le pouvoir aux gens. Donc, c'est comme un peu le sujet des quatre articles très rapidement amené. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, le monde libertaire, on va le mettre nous, le collectif Anarchie de la nuit, on le reçoit dans le fond à chaque semaine, parce que c'est un hebdomadaire. Donc on le met en consigne à la librairie de gérer la page noire. Donc vous pouvez aller là et vous le procurer.
Bouquiner,
c'est ça. En même temps, vous pouvez aller voir les ouvrages intéressants qu'il y a là-bas. Puis c'est ça, on le vend au prix de 3$. Juste si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc c'est ça. Voici pour un autre anniversaire de compléter.
Oh!
Fait que, on va continuer la musique.
Oui, on va avec une dernière pièce musicale pour aujourd'hui, avec le légendaire band Toots and the Metal, avec la pièce juste pour le fun, Reggae Got Soul.
Alors, de retour à Voix de Fait. Pour terminer l'émission, j'aurai une couple de nouvelles, en fait, une couple de nouvelles brèves. D'un côté, il y a les étudiants, en fait, c'est un regroupement d'associations étudiantes là, du Québec qui réclament, dans le fond, 1% de la masse salariale des entreprises, en fait, qui serait puisée, qui serait donnée directement par les entreprises comme une espèce de taxe supplémentaire, comme pour financer directement le système d'éducation, d'après les fédérations étudiantes. En fait, c'est comme pas très clair dans l'article que j'ai. En fait, j'ai la CADEL là, qui fait une sortie à ce niveau-là, mais j'ai
ils sont jamais très clairs, la CADEL.
Ouais, c'est ça. On sait pas trop. C'est avec qui sont là. C'est probablement la troisième.
Ouais, leur troisième voie.
Troisième voie, c'est ça. Donc, bref, la CADEL, entre autres, sort pour demander ça, réclamer cette mesure-là qui rapporterait, selon cette association-là, environ 650 millions pour le réseau de l'éducation à chaque année. Donc, ça réglerait sûrement beaucoup de problèmes. Mais reste que... Oui, OK, ça, c'est une idée intéressante, sauf qu'il y a quand même le problème qui reste que le gouvernement... finance directement les prêts étudiants, même les banques, tu sais, ils payent des intérêts à chaque année qui sont mirobolants. Je n'ai pas de chiffres, mais j'avais, me semble que j'avais entendu quelquefois entre comme 300 millions puis 1 milliard, là, tu sais, ça n'a juste aucun bon sens. Au lieu de comme se dire, bon, ben, on va peut-être garder l'argent, on va vous le prêter directement, puis on aura comme, tu sais, vous payerez des intérêts.
Non, le privé, c'est mieux.
Ben oui, c'est ça, c'est beaucoup plus
t'as
efficace.
T'as pas compris encore.
C'est ça, mais...
Tête de cochon.
Je suis peut-être tête de cochon, mais je tiens à le rester. Puis je tiens d'ailleurs à dénoncer une autre chose qui est arrivée cette semaine. En fait, c'est mardi dernier, il y avait comment qu'il appelait ça, là, mais une espèce de congrès ou de colloque qui est organisé par le CIRANO, qui est le Centre interuniversitaire de recherche en... j'ai même pas le nom complet, mais bref, quand vous entendez le CIRANO, dites-vous réactionnaire de droite qui ne cherche qu'à privatiser tout ce qui existe au niveau du gouvernement et au niveau de la vie en général. Donc, pour eux autres, dans le fond, en fait, ils ont été invités là, un peu à se pencher sur la question justement des finances publiques, puis sur la question de la dette, puis tout ça, par le ministre des Finances du gouvernement libéral, Raymond Bachand.
Un homme de gauche.
Ah oui, oui, un homme très, très versé dans l'équité et l'égalité sociale et tout, donc qui nous... c'est ça, là, qui en fait, lui faisait le discours de fermeture de ce congrès-là. Il y avait une couple de chercheurs là, qui présentaient là, leur livre sur l'économie au Québec en 2009 et tout ça. Bon, qui nous disait toujours la même rengaine que on peut plus se payer une dette aussi élevée, on peut plus se payer des services publics aussi aussi larges que ça. Services publics très larges. D'ailleurs, on parle écrasant de pauvreté au début de l'émission, tu sais, que on... Les gens ont de la misère à s'en sortir, ont pas les ressources bien souvent pour en venir à bout. Les groupes communautaires, comme alors qu'ils sont accusés d'avoir des ressources gouvernementales sans fin, sont généralement essoufflés puis croulent sous la tâche. Puis eux autres viennent nous dire que dans le fond, ce serait bien mieux si le monde payait pour leurs affaires, puis le monde, tout le monde payait directement avec des tarifs et tout, puis que dans le fond, il faudrait en plus augmenter ces tarifs-là toutes les années, mais surtout pas demander des augmentations de salaire qui vont en parallèle, parce que ça, ça a pas de bon sens. On tuerait l'économie. Puis en même temps, bien sûr, il faut pas tuer les plans de relance qui financent les grandes entreprises, parce que
c'est pas de l'aide sociale, ça.
Non, c'est pas de l'aide sociale du tout, c'est de l'aide, en tout cas. Bref, c'était ma petite montée de lait de fin d'émission.
Comme oh! Attention!
Attention.
Ça fait mal.
Ouais, fait que ça ressemble à ça. Puis pour cette semaine, c'est ce qui va conclure sur la note de comme « Il nous crosse toute la gang ». C'était Guillaume.
Et Farouko qui dit « Moi, je vous crosse pas
ses pieds. Ululu, belle, les deux, vous devez prendre le mic pour t'expliquer.